La revue de presse, bonjour Claude Ascolovitch.
Bonjour Nicolas.
Nul ne saurait l'ignorer, le président de la République a un chien.
Et on a un peu honte de commencer avec cette futilité, mais enfin, dans cette rentrée, la joie des enfants, la tranquillité des parents, le pouvoir a donc offert un animal de compagnie à nous autres, les journalistes, puisqu'on en parle, puisque j'en parle, et puisque vous le subissez, puisque Nemo est à peu près partout. Donc on va pas faire très long sur cette histoire absolument communicante d'un labrador griffon au nom de poisson Nemo, adopté à la SPA par un pouvoir grand-parent et compassionnel, sauf que cette histoire nous raconte l'esprit doucement monarchique de notre gentille République. Quand on lit bien, dans le Figaro, la patronne de la SPA, Madame Natacha Harry, toute à sa fierté, c'est le premier chien de France, dit-elle, de Nemo, que la SPA, au service de l'État, a choisi pour être le compagnon idoine des Macron. Et surtout, il y a ceci, toujours dans le Figaro, Madame Harry précise que le chef de l'État a payé de sa poche les 250 euros exigés par le refuge. Il n'a pas voulu qu'on lui offre. Bah oui, heureusement. Mais enfin, citoyenne, madame de la SPA, pourquoi le lui avoir proposé?
Et dans notre douce monarchie, Claude, la question du jour est simple. C'est qui le patron?
Et la réponse, comme chaque année, Nicolas, le patron s'appelle Gattaz, prénom Pierre, patron des patrons, qui organise son université d'été, celle du MEDEF, et que l'on voit à la une du Parisien en interview, interpeller le président Macron. Surtout, ne lâchez rien. Ne lâchez rien sur les réformes, dit Gattaz. La réforme du travail, la réforme fiscale, la baisse des dépenses. Et Gattaz demande à Macron d'être digne de lui-même. Citation. Il faut aujourd'hui montrer pourquoi le monde entier a salué l'élection d'un jeune président de 39 ans qui parle anglais et qui veut changer le pays. Voilà, c'est dit. Le patron des patrons, Gattaz, est-il le patron du président ou simplement son mentor? Il va sortir un livre, monsieur Gattaz. Ça s'appelle « 60 idées pour Emmanuel Macron ». Le Figaro en dévoile quelques-unes, c'est rigolo. Il veut baisser les taxes, ça on le savait, mais il veut aussi instaurer 10 minutes de méditation par jour dans les entreprises. C'est bon pour la productivité. Bon, on le sait, il y a un style Gattaz, un mélange d'idéalisme un peu pompier et de menaces un petit peu désolées, extrait de l'interview dans Le Parisien. Un patron ne défile pas dans la rue, il ne fait pas grève. Un entrepreneur, il se démotive ou il s'exile. S'il n'a pas ses réformes, comprenons. Ou bien encore, si on réforme l'ISS, l'impôt sur la fortune, comme prévu, le MEDEF sera le meilleur ambassadeur de la France. Oui d'accord, mais si on ne le fait pas. Cela dit, les avertissements de Pierre Gattaz semblent surjoués dans cette rentrée, presque une superstition ou un leurre, pour ne pas donner le sentiment d'un triomphe patronal.
Mais le MEDEF a déjà gagné?
C'est ce qu'on comprend quand on lit les journaux, mais... Chut. Il ne faut pas le dire, sinon ça va se voir. C'est magistralement illustré et résumé à la une de l'Opinion, titre « MEDEF Macron, l'amour en douce ». Nous sommes à fond derrière Emmanuel Macron, mais nous ne pouvons pas le dire, dit un chef d'entreprise dans un article précis et pédagogique de Cyril Lachèvre. Et dans un dessin, toujours à la une de l'Opinion, Gattaz, encore lui, le costume couvert de confettis, fait semblant de faire la tête alors qu'il fait la fête et les bouchons de champagne claquent déjà derrière lui. Alors ça ne raconte pas la fin de la séquence politique, mais tout ce qu'on lit effectivement, Nicolas, montre idéologiquement une victoire patronale. On a évoqué l'interview de Gattaz dans Le Parisien, mais le plus significatif dans Le Parisien aujourd'hui en France, c'est l'éditorial. Il est signé Nicolas Charbonneau, il est titré « Il n'y a plus le choix » et il fustige les gouvernements précédents un peu frileux et qui cédaient au chaos, aux barricades, au blocage. Voilà, c'est une opinion, mais que ce soit la ligne politique d'un grand journal populaire, donc qui s'adresse à tout le monde, c'est important, c'est ça qui donne l'impression de l'évidence, c'est l'idéologie.
Et les journaux, Claude, sont unanimes?
Non. Il y a une part minoritaire dans la presse sur la question des réformes. Libération, c'est un sujet connexe, attaque par exemple l'idéologie de la baisse des dépenses publiques. Lundi 4 septembre, les trois écoles de Valorbic et Calvados seront fermées, explique Libération, parce qu'elles ne peuvent pas fonctionner sans les emplois aidés. Voilà, ça c'est l'endroit du doute. Parallèlement, dans un grand journal libéral, le Financial Times, vous avez une inquiétude. Est-ce que les puissants syndicats français... Powerful French Unions pourrait faire échouer la réforme. Cette inquiétude britannique va faire plaisir à Philippe Martinez, autre patron, mais de la CGT, qui a le regard soucieux à la une de l'Humanité. Il y décline dans une interview sa colère contre la réforme annoncée, un mensonge d'État. À qui profite la pseudo-reprise économique? Aux actionnaires, dit-il. Et Martinez expert la lutte et la protestation. Il regarde le patron de la CGT, les grévistes de Deliveroo, ces coursiers de la restauration à domicile. Citation. Ils incarnent le modèle du travail rêvé par Macron, mais ils se battent pour obtenir des garanties collectives, ce qu'ont obtenu les autres travailleurs présentés comme archaïques. Pourquoi est-ce que c'est intéressant cette incise ? On est dans un moment où les vieilles organisations cherchent dans le nouveau monde des raisons de continuer. C'est vrai dans le patronat avec les start-up, c'est aussi vrai chez le syndicaliste Martinez avec les petits gars de Deliveroo.
Et à propos de vieux monde, Claude, une séquence nostalgie et bolchevique dans La Croix.
Et formidable, c'est une série dans La Croix sur ce qui reste de Lénine en Russie, 100 ans après la révolution bolchevique. Aujourd'hui, on parle dans le journal des appartements collectifs et on découvre que des livres pour enfants des années 20 sont toujours à la mode, notamment les aventures de l'oncle Stiopa, un brave policier soviétique au service du peuple. Il y a un parfum sépia là-dedans et du coup, on se demande si un jour, le communisme de Corée du Nord inspirera les mêmes tendresses alors qu'un missile vient de survoler Hokkaido au Japon. Coïncidence, bienvenue dans New York Times, édition européenne. On nous décrit ce qu'est la propagande de la Corée du Nord. Elle s'exprime dans des affiches terrifiantes que l'on voit dans le journal. La couleur et la fureur nord-coréenne. On voit notamment des missiles évidemment rouges qui détruisent le Capitole de Washington. Est-ce qu'un jour on verra ces posters décorer une chambre d'étudiants comme le témoignage d'une folie révolue?
Et pour finir, Claude, un homme seul, un Tunisien face au drame des migrants.
Il s'appelle Chamzedine Marzoug, cet ancien pêcheur de zarzis en Tunisie, chauffeur aujourd'hui au Croissant Rouge, c'est l'équivalent de notre Croix-Rouge, est celui qui enterre les corps des migrants noyés que la marée amène sur la côte. Ce sont des morts dont nul ne veut dans cette ville, dans les cimetières, sauf lui, qui les enterre quand même. « Je suis leur famille tant qu'ils n'ont pas de famille », dit-il. Il est dans le journal L'Humanité. Il témoigne de notre humanité restante.
Claude Askolovitch, merci pour cette revue de presse.